Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une fiche pratique assez dense sur la tokenisation des actifs dans le private equity.
Bonjour, oui, un sujet technique, mais franchement passionnant.
Et on voit que ce n'est pas juste de la théorie. Hein. Des grands noms comme KKR, Hamilton Lane, ils y vont déjà. Ils lancent des fonds tokenisés.
Tout à fait. Et ce n'est pas que les acteurs privés. Les régulateurs bougent aussi. On a le DLT Pilot Régime en Europe, MiCA. Et même la Banque de France qui explore ça. Donc, on sent bien que c'est plus qu'une simple expérience. C'est peut-être un changement d'infrastructure de fonds qui se prépare.
Alors, pour être sûr qu'on parte sur les mêmes bases, la tokenisation d'actifs, qu'est-ce que c'est, simplement?
En gros, c'est l'idée de prendre un actif financier, une part de fonds, de PE, une obligation, peu importe, et de la représenter sous forme de jeton numérique.
Un jeton?
Oui, un token sur un registre distribué, une DLT. Et après, tout ce qui concerne cet actif, ses droits, ses transferts, c'est géré par des programmes informatiques, les fameux smart contracts.
D'accord. Et cette DLT, cette technologie de registre distribué, c'est ça la clé, non? Fini la base de données unique centralisée?
Exactement. Au lieu d'un seul grand livre central, l'information est copiée, validée et synchronisée sur plein d'ordinateurs, de nœuds.
Ce qui rend la triche difficile, j'imagine.
Très difficile, voire impossible en théorie. Chaque transaction est validée par consensus, signée avec de la cryptographie, c'est transparent, immuable. Ça crée une confiance partagée sans passer par un intermédiaire central pour tout valider. Ça allège beaucoup de processus manuels.
Et les règlements dont on parlait, DLT Pilot Régime, MiCA, comment ils s'intègrent là-dedans? C'est un peu la jungle, non?
Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs textes. Le DLT Pilot Régime, c'est vraiment un cadre européen pour tester. Tester quoi? L'émission, la négociation, le règlement des instruments financiers directement sur DLT.
Un bac à sable en quelque sorte?
C'est ça, un bac à sable réglementaire pour l'infrastructure de marché de demain. MiCA, c'est un peu différent. Lui, il encadre plutôt les crypto-actifs qui ne sont pas des instruments financiers au sens strict, certains stablecoins, les utility tokens et les plateformes qui les gèrent.
Donc ils se complètent plus qu'ils ne se superposent.
Voilà, c'est l'idée. Ils créent ensemble un cadre plus global.
Et on entend aussi parler d'identité numérique, EIDAS 2.0. Quel rapport?
Ah, ça c'est crucial pour la partie conformité. Le fameux KYC, KML, Know Your Customer. EIDAS 2.0 prépare le terrain pour une identité numérique européenne vérifiable qu'on pourrait stocker dans un portefeuille numérique, le UDI Wallet.
Et l'intérêt?
L'investisseur pourrait prouver qui il est et qu'il est éligible pour investir une seule fois, de manière sécurisée. Et cette preuve serait réutilisable sur différentes plateformes. Fini de refaire le KYC à chaque fois.
D'accord, très clair. Maintenant, revenons au private equity. Pourquoi tout ce buzz? Qu'est-ce que ça change vraiment? La liquidité, par exemple. On sait que c'est un problème.
C'est le problème historique du PI, non? Marché secondaire quasi inexistant, lent, cher, opaque. La tokenisation, elle promet de tout changer là-dessus.
Comment?
Grâce à des transferts quasi instantanés sur des plateformes DLT spécialisées et régulées, type ATS ou MTF. On passe de transactions qui prennent des semaines, voire des mois,
oui,
à quelques minutes. C'est une réduction massive des frictions.
Impressionnant. Et pour l'accès, aujourd'hui, il faut souvent mettre des millions sur la table.
C'est l'autre grand avantage potentiel, le fractionnement. On peut prendre une grosse part de fonds et la diviser en jetons plus petits.
Ah oui?
Et du coup?
Du coup, ça ouvre la porte à des investisseurs qui n'avaient pas accès avant.
Les HNWI, les particuliers fortunés, les family offices, avec des tickets d'entrée beaucoup plus bas. On parle parfois de 20 000 dollars pour démarrer.
Ça démocratise un peu l'accès, en fait.
C'est l'idée. Mais attention, ça pose aussi des défis, bien sûr.
Justement, j'allais y venir. Ouvrir à plus d'investisseurs, plus petits peut-être, ça ne complique pas la vie des gérants, des GPs, plus de monde à gérer.
C'est une vraie question. Mais c'est là que l'automatisation via les smart contracts entre en jeu. Pour les opérations de routine, les appels de fonds, les distributions de cash, au lieu d'avoir plein d'échanges manuels, d'emails, de fichiers Excel dans tous les sens, on peut programmer ça sur la DLT. Tout se fait sur un registre unique, de façon automatique.
Donc, moins d'erreurs, plus rapide?
Exactement. Et plus transparent pour tout le monde. Ça peut libérer du temps précieux pour le GB, pour qu'il se concentre sur la création de valeur, pas juste sur l'admin.
Et côté conformité, au-delà du KYC simplisé dont on parlait?
La DLT, par nature, offre une piste d'audit complète. Chaque transaction est enregistrée, horodatée, immuable. L'audit devient presque en temps réel. Fini les vérifications a posteriori qui prennent des jours.
Prenons des exemples concrets pour bien visualiser. Le registre des investisseurs, le LP Register.
Ah, le fameux fichier Excel partagé, ou pas toujours partagé d'ailleurs, hein. Le remplacer par un registre sur DLT, c'est un gain direct en fiabilité. Plus de versions multiples, une seule source de vérité, sécurisée, auditable instantanément.
Je vois bien l'intérêt pour ceux qui ont déjà dû réconcilier ce genre de fichier.
Exactement. Autre cas, le feeder fund tokenisé.
C'est-à-dire ?
Créer un véhicule d'investissement, mais entièrement digital, accessible via une plateforme. C'est une façon de cibler spécifiquement ces nouveaux investisseurs, les HNEY, les family office, de façon plus efficace. Ça peut accélérer la collecte de fonds. On peut programmer ça dans un smart contract. Par exemple, quand telle condition est remplie, une décision d'investissement validée, un certain seuil atteint, hop, l'appel de fonds ou la distribution se déclenche automatiquement.
Rapide, transparent, moins d'erreurs, ça semble logique.
Oui, le potentiel d'efficacité est là.
Alors, si un GP est convaincu, mais un peu intimidé, par où commencer ? Faut-il tout tokeniser d'un coup ?
Surtout pas. Ce serait le meilleur moyen de se planter. Non, l'approche recommandée, c'est vraiment d'y aller pas à pas.
Commencer petit.
Voilà. Identifier un cas d'usage précis, avec un gain clair et mesurable. Le registre LP, c'est un bon candidat. Ou un petit feeder fund pilote. Lancer un MVP, un minimum viable product.
Tester quoi ?
Tester, choisir les bons partenaires techno, régulateurs, mesurer les résultats, temps gagné, coût réduit, fiabilité améliorée. L'objectif, c'est pas de tout révolutionner demain matin, mais d'apprendre vite et de construire la confiance en interne.
Très pragmatique. Donc, pour résumer notre discussion, la tokenisation dans le private equity, ce n'est plus de la science-fiction.
Non, c'est une réalité opérationnelle qui prend forme. L'infrastructure est là, ou en train de se mettre en place, et la réglementation avance, avec MiCA, le DLT Pilot, IDAS 2.0.
Et les bénéfices pour les sociétés de gestion semblent réels. Transparence, automatisation, accès élargi potentiellement.
Oui, et ceux qui commencent à expérimenter maintenant, même modestement, pourraient bien prendre une longueur d'avance. Le maître mot, c'est commencer par un projet ciblé, prouver la valeur.
Et cette transparence, cet accès élargi, se concrétise vraiment. Comment est-ce que ça pourrait changer, à terme, la nature même de la relation entre les gérants de PE et leurs investisseurs ?
Vaste question. Ça pourrait rendre la relation plus directe, plus fluide peut-être. Moins d'intermédiation. C'est clairement une piste à explorer.
Une perspective intéressante pour l'avenir de l'industrie. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Merci à vous.